Bien, bonsoir. Je vous propose, on va commencer maintenant. Cette conférence est la première d'une série de neuf sessions qui se présente. Je vous en parlerai davantage en détail dans quelques instants sous la forme donc de conférence débat. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de venir, de vous intéresser à ce sujet qui, moi, me passionne de longue date. Je voudrais également remercier la mairie de Saint-Mandé qui a organisé donc cet événement, cette série de sessions, tout particulièrement le député-maire et également les personnes qui ont été mes interlocuteurs ici au niveau de la maison des marronniers, et toutes ces personnes ont soutenu ce projet. L'un d'entre eux est là d'ailleurs actuellement, ont soutenu ce projet jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi faire un cycle de conférences sur les origines de la pensée bouddhique? En fait, le bouddhisme commence à être connu maintenant en Europe, en Occident, mais bien qu'il soit connu, on ne peut pas dire qu'il y a quelques concepts bouddhiques qui arrivent, qui sont même au fur et à mesure, on pourrait dire, incorporés dans le langage, mais dans le détail, cette philosophie est en réalité peu connue. C'est-à-dire que surtout, en général, les personnes en connaissent mal les articulations et voient mal plus en détail les principes profonds qui anime cette pensée. Alors, il y a un certain nombre de raisons à cela. La principale d'entre elles, c'est que les grandes spiritualités de l'Asie, dont le bouddhisme fait partie, se sont développées avec finalement très peu de contacts réels et de connaissances de la part de l'Occident. Je ne dis pas qu'il n'y en a eu aucune, mais jusqu'à des époques, au moins jusqu'au 19e, 20e siècle, il y en a eu assez peu, même s'il y a eu des ponts qui ont existé. Il y a eu des penseurs, je pense à Schopenhauer par exemple, qui a connu des choses de la doctrine bouddhique, mais globalement, je pense que ça fait assez peu de temps qu'il y a vraiment des éléments de la pensée bouddhique qui arrivent. Et non seulement ça fait peu de temps qu'ils arrivent, mais ils arrivent dans le désordre d'une certaine manière, en ce sens où le bouddhisme a produit des penseurs depuis un peu plus de 2500 années maintenant, sur des pays extrêmement différents. Je veux dire, le bouddhisme est né dans le nord de l'Inde, il a gagné l'ensemble de l'Inde, il a gagné de l'autre côté également l'île de Ceylan, et ensuite de quoi il a gagné il a contourné l'Himalaya et il a gagné des pays même dont certains sont plus du tout bouddhistes actuellement, comme l'Afghanistan par exemple, et pour finalement débouler en Chine, dans un premier temps donc par ce biais, c'est-à-dire des voyages terrestres, et également dans un deuxième temps par le biais des voyages marins, où il est arrivé dans le sud de la Chine. Ensuite de quoi, à partir de là, il a également rayonné sur l'ensemble de l'Extrême-Orient, Japon, Corée, Vietnam, et également de l'autre côté vers l'Indonésie. Donc on voit qu'il y a eu un grand nombre de pays, de cultures différentes, de peuples qui ont été touchés par cette pensée, que ça a duré très longtemps, je veux dire, il faut bien voir ça sur un peu plus de deux millénaires, ça produit énormément de penseurs, ça produit énormément d'écoles, parfois avec des doctrines relativement différentes, et donc, quand les choses arrivent maintenant, en fait, il y a un aspect un petit peu de saupoudrage, c'est-à-dire qu'il y a différents livres qui ont été publiés sur ce genre de sujet qui sont parus, des livres d'initiation, des livres plus profonds, mais il faut bien voir qu'on regroupe une très grande partie de l'humanité, des êtres humains qui ont vécu sur cette terre, ont connu cette doctrine du bouddhisme, parce qu'on touche là aux pays qui de tout temps ont été les pays avec les populations les plus nombreuses, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine par exemple. Ça produit énormément de penseurs, ça a duré durant longtemps, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'on regarde quand même des portions de temps qui sont d'un peu plus de deux millénaires, et maintenant il y a des bribes de cela, depuis un peu plus de 100 ans, je pense, qui arrivent en Occident, mais qui sont pris différents penseurs, différents courants religieux qu'il y a à l'intérieur du bouddhisme, et donc qui arrivent d'une manière, un petit peu pas forcément cohérente. Et donc ici, les personnes ont énormément de mal à se faire une idée des principes essentiels qui sont ceux du bouddhisme et autour duquel cette pensée s'est articulée. Alors, le but, si vous voulez, c'est que nous verrons durant ce fil des 9 conférences qui se tiendront ici, quelles ont été justement les pensées de base qui se retrouvent dans la plupart des écoles bouddhiques à l'heure actuelle et qui se sont développées dans un premier temps dans le bouddhisme indien antique. Donc c'est en 9 conférences, on doit arriver à survoler un petit peu cela, et ce qui fait que donc les personnes qui assisteront à ces conférences auront une possibilité d'appréhension de l'ensemble des philosophies bouddhiques, sans doute qui leur permettra déjà de mieux placer les choses. Une autre chose qui a fait aussi que le bouddhisme était finalement relativement peu connu en Occident, c'est que c'est une doctrine qui est vivante, qui, quand on regarde, existe pas seulement au niveau des livres, et quand on voit les principaux recueils d'enseignements du bouddhisme, qu'on appelle des sutras, donc qui sont les paroles théoriquement les paroles elles-mêmes qu'a prononcées le Bouddha, ou des gens qui vivaient avec lui, qui étaient ses disciples, on se rend compte de l'importance extrême qu'ont des personnes que j'appellerais les questionneurs. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de ces textes qui finalement sont des sortes de dialogues qui ont été codifiés et où il y a des personnes qui posent des questions au Bouddha et lui qui répond. Et en fait, à travers cet exemple, on voit bien que l'une des manières dont le bouddhisme, en tant que doctrine, que pensée vivante, s'est répandue, c'est à travers ce jeu des questions-réponses. C'est-à-dire que la personne qui questionne a une grande importance. Il a une grande importance parce qu'il veut savoir quelque chose. Je veux dire, c'est pas une question gratuite, ce n'est pas une conversation de salon. Les personnes, vis-à-vis de cette doctrine, au fur et à mesure où ils commencent de la connaître, il y a des questions diverses, je pense des questions de plus en plus fines, qui se posent à eux. Et donc, le fait de répondre à une question qui est vraiment importante pour celui qui l'a posée a toujours été une partie essentielle de l'enseignement de cette doctrine. C'est pour ça que c'est une doctrine qui, de par sa forme même, est vivante, dépend non seulement de la doctrine elle-même, mais des personnes à qui elle s'adresse et de ce que ça représente pour ces personnes elles-mêmes. Donc il y a cette espèce toujours de jeu. Vous verrez que au fur et à mesure où on avancera dans notre programme, la notion de, je sais pas comment on peut dire, de combinaison est toujours quelque chose qui est très important. Pour que quelque chose se passe, il faut qu'il y ait un ensemble de conditions qui font que ça se passe. Ça c'est un principe sur lequel, de manière peut-être plus philosophique, nous reviendrons. Alors pour ce qui est des sessions qui vont se passer là durant le mois de janvier, aujourd'hui, donc là je parle un petit peu beaucoup quand même des conditions et de tout ça, parce que c'est la première session que nous faisons comme cela, mais ensuite évidemment je ne vous referai pas à chaque fois cette présentation. Donc aujourd'hui nous allons voir vraiment les débuts de la pensée bouddhique, les éléments qu'elle reprend de la pensée donc pré-bouddhique, et on verra un peu ce que c'était qui s'appelle le brahmanisme, et pourquoi, en quelque sorte, est né le bouddhisme? C'est-à-dire, à quelles questions fondamentales elle répond chez des gens, qui étaient donc les populations auxquelles le Bouddha s'est adressé, et c'est également, une question qui le hantait lui-même, à quelles questions fondamentales elle répond, et vis-à-vis de quoi cette doctrine s'est constituée? C'est le début de ce que nous verrons aujourd'hui, et qui en fait restera le fil conducteur non seulement des autres sessions que nous ferons, mais du développement de la pensée bouddhique au fil des siècles et selon les différents peuples qui ont adopté cette doctrine. On verra également, mais ça ce sera la fois prochaine, c'est-à-dire une autre réponse, afin que vous ayez des éléments de comparaison, une autre réponse qui a été faite par une autre doctrine qui est née à la même époque que le bouddhisme en Inde et qui s'appelle le jaïnisme. Où donc là, vis-à-vis de ces questions essentielles, on a une autre forme de réponse. Lors de la seconde session de janvier, donc qui se passe exactement dans deux semaines, donc le 26, nous verrons ce qu'a été le personnage historique du Bouddha, quelques éléments de sa doctrine. Donc ça c'est et c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie très édifiante, si on peut dire, mais enfin surtout ça a été un chercheur et un pédagogue. Et donc on verra ce qui a amené la quête qui a été la sienne et le choix des moyens d'enseignement qui ont été les siens. À partir de la fois prochaine également, je vous donnerai quelques éléments bibliographiques, hein, pour que vous ayez également des repères tout à fait autres et en plus de ce que je vous dis là. Alors, au niveau du déroulement des séances par elles-mêmes, théoriquement, ce sont des séances qui durent 2 heures, hein, ça fait assez long, hein, vous le verrez. Donc il faudra être très résistant. La première heure, bon, on essaie à terme de faire que ça se passe bien. La première heure, c'est un exposé donc que je fais, et la deuxième heure, si c'est possible, je souhaiterais que nous ayons une sorte de discussion, de débat, de questions-réponses, parce que vous allez voir que des choses que je vais dire vont sans doute nécessiter des compléments d'informations. Néanmoins, même durant la première heure, s'il y a des choses que je dis et qui semblent particulièrement obscures, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, hein, parce que c'est peut-être pas la peine que je continue forcément tout seul sur mon chemin. S'il y a des difficultés qui se posent à une personne, normalement c'est également des difficultés qui se posent à d'autres personnes. Et également, pour ceux qui le souhaitent, à la fin de cette session, vous pourrez avoir le script de la conférence qui est faite aujourd'hui, du moins de la première partie, c'est-à-dire de l'exposé. Bien, également, encore une dernière chose à dire, théoriquement, nous sommes en train de procéder également à un enregistrement de ce qui se passe. Alors, je ne sais pas s'il sera beaucoup d'intérêt forcément pour les personnes qui ont assisté que de réécouter à nouveau ce qui s'est dit. Par contre, pour une personne qui, mettons, sur le cycle des conférences, en louperait une, eh ben, il peut toujours la re-entendre. Donc, l'adresse, donc ça, ce sera ensuite mis au niveau du site internet de la Maison des Marronniers. Et pour les personnes qui le souhaitent, la chose sera réécoutable. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant au niveau du déroulement? Parce que là, après, attention, vous entrez complètement dans le vif du sujet. Comment? Ben, vous êtes à 2 mètres de moi, donc normalement, je suis quelqu'un qui a une voix qui porte. Je peux parler plus fort, hein, ça c'est pas un problème, mais à 2 mètres de moi, normalement, on m'entend. Vers le fond, par contre, c'est peut-être davantage vers le fond. Est-ce que vers le fond, je suis audible? Alors, on va peut-être pousser l'appareillage. Alors, il faut que ce soit moi qui me rapproche du... Oui. Est-ce que c'est mieux?
Ah oui.
Ah, du coup, je peux même parler à voix basse, là. D'accord, bien. Ok. Oui, tout à fait. Oui. Oui, normalement oui, parce que c'est déjà fait, mais je ne l'ai pas en tête. Enfin donc, les sujets qui seront traités globalement, je peux en parler un petit peu, qui seront traités par la suite, mais dire exactement chaque sujet, quel jour ce sera. Bon, pareil, là, je pense que dans le cas sur le site de la mairie, on mettra le programme à l'avance, donc qui permettra que les personnes sachent en détail les choses qui vont se passer. D'accord? Alors, on va entrer donc au début dans la pensée indienne pré-bouddhique, que je vais survoler rapidement. Le bouddhisme, pour situer quand même les choses un petit peu avoir quelques repères temporels, est né, enfin la personne du Bouddha est née, on pense maintenant à peu près au 6e siècle avant notre ère, dans une région du nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, une région qui s'appelle le Terai, qui est un petit peu au-dessus, je crois que c'est à peu près 200 km de Bénarès, hein, pour avoir une idée, et qui est juste en dessous de la frontière népalaise actuelle. Ce qui fait que l'ensemble de l'activité du Bouddha s'est passé à peu près dans la région du Gange, ce qu'on appelle la région gangétique. Il a été dans l'Inde antique. On a quelques repères par des textes extrêmement anciens, qui sont parmi les textes les plus anciens de l'humanité. Les plus vieux s'appellent les Védas, et on pense que ça remonte environ à 1500 ans avant Jésus-Christ. Ils ont été suivis. Alors tout ça, ce sont des choses qui ressortent de traditions orales, avant que d'être consignées. Ils ont été suivis par les Upanishads, qui, eux, donc ces plusieurs livres, ont été composés, en gros, entre moins 1000 et moins 500. Ce qui laisse à penser, si vous voulez, que les derniers Upanishads qui ont été composés, en fait, qui ont été mis par écrit, l'ont été à l'époque du Bouddha. On verra différentes choses de la pensée indienne, mais, évidemment, d'une certaine manière, vue à travers le prisme de ce qui a ajouté le bouddhisme. Ce que l'on peut dire, c'est impossible de résumer des livres comme les Upanishads ou les Védas comme ça en quelques mots, mais ce sont des textes qui dégagent le rôle sacerdotal et la supériorité de l'une des castes. C'est que l'Inde était organisée et reste dans la mentalité énormément encore à l'heure actuelle organisée en tant que caste. On verra tout à l'heure le détail de ces différents ordres de la société. Et donc, les Védas et les Upanishads montrent le rôle sacerdotal, les sacrifices, et la supériorité d'une caste qui s'appelle les Brahmanes. D'où l'une des raisons pour lesquelles cette religion antique est appelée le brahmanisme. Importance des rites. Le brahman a un rôle dans la société qui consiste à accomplir d'une manière fidèle un certain nombre de rites, à développer un certain mode de vie, et par la sorte, on pourrait dire que la résultante de cela est un certain équilibre, on en parlera tout à l'heure, de la société. Dès lors que chacun dans les différentes castes qui constituent la société tient exactement le rôle qui est le sien, la société suit une voie naturelle, enfin naturelle entre guillemets, c'est peut-être pas exactement le terme, on verra tout à l'heure, on apprendra ce que signifie le dharma, qui signifie l'ordre, la loi. Donc la société est dans un ordre bon, ordonné. Il y a la croyance dedans, dans cette doctrine, dans ce qu'on pourrait appeler une âme universelle et dans des incarnations d'âmes individuelles. Alors, c'est le phénomène, je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la métempsychose, c'est-à-dire que dans ce genre de doctrine, on pense que la personne que chacun de nous est à l'heure actuelle a déjà vécu auparavant d'autres existences et continuera à en vivre d'autres dans le futur. Donc il y a cette espèce de cycle qui est un cycle infini où ce qu'on pourrait appeler l'âme, mais je pense que on le verra plus en détail, on a intérêt à tirer ces notions qui sont des notions finalement assez philosophiques et parfois extrêmement vagues au plus près pour comprendre de quoi il s'agit. Sans ça, les mots qui sont un bon outil peuvent également parfois être quelque chose qui qui est un outil qui est trop pratique et donc qui empêche de voir les choses bien dans le détail. Pour l'instant, je me contenterai donc d'utiliser ce terme d'âme. Donc, dans cette doctrine, il y a l'idée que, actuellement, quelque sorte, nous sommes habités par une âme qui est la nôtre, mais qui a déjà existé dans le passé, jusqu'en remontant les passés les plus lointains, et sous la forme d'autres existences. D'autres existences qui ne sont pas forcément humaines. Cette idée de la transmigration éternelle de l'âme, est ce qu'on appelle le samsara. Je vais l'écrire. Alors, je crois même qu'il y a un parfumeur qui a donné ce nom à un parfum. Hein. Donc, je veux dire, c'est ce qui prouve qu'effectivement, les doctrines de la vie commencent à, à toucher l'Occident. Hein. Peut-être qu'il y a des parfumeurs chinois ou, je sais pas, ou indiens ou n'importe quoi qui ont donné des noms de religieux occidentaux à des parfums, mais dès lors que les gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit, dès lors que ça sonne bien, il n'y a pas de problème. Donc, cette affaire donc, du samsara, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure parce qu'on a quand même une notion ici qui est très différente de la manière dont dont ça a été vécu en Asie. Il y a quand même l'idée fondamentale que que ce sont nos actes qui nous constituent. C'est un autre mot sanskrit qu'on va apprendre, qui est le mot karman, qui, pour des raisons diverses, ici est surtout connu comme étant karma, c'est-à-dire qu'il y a un N qui est tombé dans la bagarre. Alors normalement, en sanskrit, c'est karman. Je pense que ça doit être à partir du palu, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a le Damien qui n'a pas survécu au passage. Alors, cette notion du karman ou des karman, ici, souvent j'ai remarqué qu'elle a été assez mal comprise parce qu'elle est assimilée à une notion qui est assez proche de celle de la destinée. C'est-à-dire qu'on pense qu'à une personne, il y a un certain nombre d'événements qui lui sont impartis. Souvent d'ailleurs on en parle à propos d'éléments pas forcément heureux. Et alors que en fait même la notion est très différente. Exactement, le mot karman, donc qui en japonais c'est go, en chinois yue, c'est le idéogramme chinois. Tout à l'heure je parlerai un peu de typologie de certains caractères. Donc ça signifie les actes. Et d'ailleurs, à mon sens, plutôt que d'incorporer des mots étrangers, ça aurait été plus simple. Ce qu'on comprend bien, on l'énonce facilement. C'est d'appeler en français, ça signifie les actes. Alors, ça signifie quoi, cette affaire? Ça signifie que, au fur et à mesure, nous sommes constitués des actes que nous produisons. Le seul fait d'être vivant fait que je suis créateur, producteur d'actes. Ces actes dans le bouddhisme sont de trois sortes. Ce sont des actes mentaux, corporels et vocaux. C'est-à-dire que je ne peux pas, même quand je ne fais rien, même quand je rêve, ne pas être producteur d'actes mentaux ou d'actes du corps ou bien alors d'actes vocaux, c'est-à-dire que je dis des choses. Alors le terme exact, quand même, c'est le, on ne dit pas des actes vocaux, si on traduisait mot à mot, ce serait des actes buccaux, c'est-à-dire des actes de la bouche. Ce qui laisserait à penser, d'ailleurs dans certains textes on le voit, que l'alimentation fait également partie. Donc, nous sommes à chaque moment producteurs ou bien d'actes mentaux, ou bien d'actes du corps, je fais des choses, ou bien d'actes vocaux, c'est-à-dire je dis des choses, ou bien tout à la fois, hein, c'est également possible. Alors, du point de vue de cette doctrine, donc des actes, ces choses que nous produisons doivent avoir une rétribution. Pourquoi ? Parce qu'elles vont changer le réel. Le réel, bon, même des choses insignifiantes que je fais, hein, c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais même pour nous, même la partie du réel que chacun d'entre nous constitue, dès lors que je fais quelque chose, et on ne peut pas, si on est vivant, ne rien faire, c'est-à-dire ne pas être producteur ni d'acte mental, ni d'acte vocal, ni d'acte physique, c'est impossible. Dès le moment où je fais quelque chose, et en plus je suis pas tout seul sur Terre, hein, il y a d'autres gens, il y a des animaux, il y a tout ça, et tout fait quelque chose, si vous voulez. Dès lors qu'il y a quelque chose qui se fait, le monde est un petit peu différent d'avant. Un peu ou beaucoup, hein, ça dépend les critères que l'on a. Et donc, dès lors que le monde est différent, il doit y avoir une rétribution à ces actes. Parce que ces actes ont amené un changement du monde, un changement de soi-même. Alors, cette doctrine du karma, cette doctrine des actes, souvent quand on regarde dans les textes la manière dont c'est expliqué, c'est souvent expliqué, comment dirais-je, en référence à des cycles agricoles. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une graine qui existe, une graine qui donnait, je ne sais pas, mettons une graine de blé, qui donnait un plant de blé, d'accord. Eh bien, cette graine, elle existe. Si elle rencontre un certain nombre de conditions, le fait d'avoir été mis dans la terre, le fait qu'il y ait une certaine température, une fois que ça aura commencé à pousser, le fait qu'il y ait un certain ensoleillement, le fait que la terre, bon, moi je suis pas paysan, hein, donc tout ça j'en parle, c'est un peu imaginaire, hein, le fait que la terre reçoive de la pluie ou des choses comme ça, eh bien, il y aura quelque chose qui va se passer, il y aura un plant de blé. Si les choses se passent différemment, peut-être qu'il n'y aura rien, ou peut-être qu'il y aura simplement un truc de blé qui n'aura pas beaucoup poussé. Donc, on pense que les actes que nous faisons à chaque instant restent dans une partie, comme des graines, si vous voulez, comme quelque chose qui n'a pas encore germé, dans une partie de nous-mêmes, dans une partie, dans le bouddhisme, c'est une forme de conscience, dans une partie de notre conscience. Ceux qui ont davantage fait de... Il y a quelques-uns ici qui ont déjà étudié ce genre de doctrine, ce qu'on appelle la huitième conscience dans le bouddhisme, parce que le bouddhisme subdivise les différentes consciences qui forment le mental. Et donc, cette graine qui reste là, elle va rester jusqu'à ce qu'il y ait un ensemble, on pourrait dire, de conditions, de causes extérieures qui permettent qu'elle se manifeste, exactement comme tout à l'heure, mon grain de blé, jusqu'à ce qu'il y ait les conditions qui permettent sa germination. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une combinaison qui va se passer et qui va faire que la graine en question va pouvoir germer. Et donc, qu'un acte que j'ai commis, dont la rétribution est en moi, qui fait partie, qui est dans une de mes consciences, à un moment donné, va se combiner avec des phénomènes, on pourrait dire, extérieurs, mais qui lui correspondent, qu'il a appelé et que eux ont appelé, mutuellement, il va y avoir une combinaison, et qui va être pour moi un effet, c'est-à-dire une rétribution d'un acte qui a existé dans le passé. C'est une drôle de doctrine, hein. Et une fois que cette rétribution a été effectuée, l'acte en tant que cause n'existe plus. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, là on parlait juste d'un acte isolé, mais à chaque instant, je suis producteur d'actes, mentaux, physiques, etc. Donc, du coup, on pourrait dire, par ce seul fait, j'ai un futur. C'est-à-dire que le fait d'être sans cesse producteur d'actes fait qu'il y a des actes qui sont effectués et qui n'ont pas encore eu leur rétribution. Et donc, dès lors, il y a un futur qui existe pour moi. Et donc, même donc dans cette doctrine hein, du samsara, donc même si ma vie se termine et que je meurs, donc par le fait, comme tout le monde, hein, je dois revenir... Alors, attention, là aussi, le langage nous abuse pour beaucoup, parce que quand je dis « je », c'est pas moi, hein, ça sera pas « je », ça sera complètement autre chose, hein. Mais donc, autre chose, mais qui a été créé par ces actes reviendra. Et là, vous voyez quand même que, d'une telle manière, on est un petit peu abusé par les mots, parce que quand on parle d'âme, nous on pense toujours à une âme individuelle. C'est mon âme à moi. Ou des choses comme ça. Alors que là, en fait, on voit qu'il y a un système, on pourrait presque dire, de mécanisme qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont commises dans les différents actes que je commets. Certains sont volontaires, d'autres ne le sont pas. Jusqu'à quel point ils reflètent ce que je crois que je suis, je ne sais pas. Mais il y a des actes qui sont commis. On a souvent l'impression, justement, quand on voit ce genre de système, que ces actes qui sont commis, que ce système qui va faire qu'ils vont réapparaître sous la forme de rétribution, que ce système, on pourrait dire, presque travaille pour lui-même. Nous, dans tout ça, on met de l'ego. C'est-à-dire qu'on dit, c'est moi, je fais des actes, j'ai telle personnalité, je suis tel genre de personne, etc. Il y a quelque chose qui est, qui nous permet de vivre hein, dedans. Mais, en fait, là, on arrive à un ensemble de systèmes, et on verra pourquoi tout à l'heure, mais qui, d'une certaine manière, vont beaucoup plus loin que l'ego. C'est-à-dire que ce genre de pensée, ce sont les structures qui sous-tendent l'ego, mais dont l'ego lui-même n'est qu'une... ce serait faux de dire que c'en est qu'un épiphénomène, parce que c'est quand même pas vrai, c'est quand même quelque chose d'important, mais l'ego lui-même en est l'une des facettes, et il y en a d'autres. Alors donc, de ce point de vue-là, donc c'est déjà, vous voyez, bon, là c'est un des premiers points qu'on aborde de cette doctrine, c'est-à-dire que l'individu est constitué de ses actes, de ce qu'il fait, y compris, on pourrait dire, d'actions peu importantes. Mais ce sont les actes qui constituent l'individu. Alors c'est un premier concept que l'on voit pour parler. Ça, ce sont quand même des doctrines qui existaient avant le bouddhisme. Hein. Le bouddhisme les a développées énormément d'une manière très très détaillée, mais c'est quand même des doctrines qui existaient. Alors il y a une deuxième chose dont je veux parler, qui est également un concept important. Donc je préfère tout. Pour les concepts importants, tout vous dire de base, et comme ça on verra après comment il s'oriente, et qui est un concept fondamental, c'est ce que l'on appelle en bouddhisme le dharma. Je pense que vous avez déjà entendu peut-être ce terme. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore eu de parfumeurs qui ont donné ce nom-là à un parfum, mais donc on peut leur suggérer. Alors, le dharma, qui est une notion tout à fait fondamentale, si on le traduit en français, en général, c'est traduit par ordre, loi. J'ai trouvé encore d'autres choses. Ordre, loi, c'est en fait tout ce qui donne un ordre aux choses, ou alors, même dans beaucoup de textes, vous verrez, les choses n'est pas traduites, parce que c'est pas toujours évident à traduire dans une phrase donnée, dans un contexte donné, et on dit simplement dharma. Alors, étymologiquement, ça vient d'une racine grecque, écrit DHR, et qui signifie fixé en français. Donc vous voyez qu'on parle de ce qui est du domaine de l'ordre, de la loi. Alors, attention, loi. Théoriquement, pas dans un sens juridique, hein, une loi des choses, une loi de la société. On verra les différents domaines sur lesquels le dharma intervient. Et donc, c'est cette idée, c'est qu'il y a un ordre préétabli et qui tient à la structure même des choses. Donc la racine, comme je vous l'ai dit, d'où vient ce mot, signifie fixer. Et donc ça signifie que dans n'importe quelle chose qui existe, hein, il y a quelque chose, enfin c'est un peu étrange à dire, mais qui le fixe dans le réel. C'est-à-dire qu'il y a une structure même de toute chose qui font que la chose appartient au réel. Et donc, dans l'explication du dharma, que donne le bouddhisme, on est pour les époques antiques, hein, je parle, mais pas très loin quand même d'une sorte d'approche entre guillemets scientifique. Alors effectivement, qui correspond plus aux sciences telles que nous les voyons à l'heure actuelle, Mais si on se transpose de l'autre côté, par exemple en Occident, bon, ben, c'est à la même époque que les penseurs pré-socratiques, que les premiers grands mathématiciens, que Pythagore, etc. Pour mieux comprendre, hein, le mot contraire au dharma, c'est ce qui est adharma, donc a qui signifie privatif, hein, contraire à. Et donc ce qui est adharma, c'est ce qui est désordonné, c'est ce qui est vicieux, c'est ce qui est mauvais. Si la société, par exemple, arrive à présenter un aspect adharma, c'est que le monde va à l'envers, c'est que les choses sont sans dessus dessous. Donc, c'est quelque chose qui existe. Hein. C'est-à-dire que ce bon ordre des choses est un bon ordre, on pourrait dire pratiquement presque parfait, mais il peut y avoir tout à fait le désordre. Et alors, le désordre entraîne lui-même, on pourrait dire, sa propre destruction jusqu'à ce que l'ordre à nouveau réapparaisse. Lorsque le bouddhisme est arrivé, est-ce que c'est à peu près compris d'après les mots que, d'après ce que j'ai dit, cette notion du dharma, parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qu'il faut bien voir, cette notion de l'ordre est quelque chose qui, dans ce genre de doctrine, se décline à différents niveaux. Ça se décline à la fois, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais à la fois au niveau de l'individu, au niveau de la société et au niveau du monde. C'est-à-dire que, au niveau de l'individu, c'est la morale, c'est l'éthique. Hein. Au niveau de la société, on pourrait dire c'est une sorte d'éthique de la société, c'est-à-dire c'est les principes qui font qu'on peut avoir une société qui est en bon ordre. Oui, c'est pour ça que, en fait, l'une des traductions, c'est effectivement loi. C'est-à-dire que il faudrait essayer de faire que les lois soient appliquées et que les lois sociales reflètent le dharma. C'est le même mot, hein, qui a donné à la fois justice et justesse. Et donc, quand on est du côté de l'éthique, hein, c'est plus une notion de justice, hein, et quand on est du côté de vraiment voir comment vivre, etc., on est au niveau de la justesse. Mais c'est quand même, au bout du compte, c'est des notions qui sont extrêmement voisines et qui viennent de la même chose. Donc, si vous voulez, le dharma donc se décline à la fois à trois niveaux, qui est à la fois au niveau de l'individu, donc on pourrait dire c'est l'éthique, c'est la morale. On dit, il y a même par exemple un svadharma, c'est-à-dire un dharma du soi. C'est-à-dire que je dois trouver moi-même, mais c'est valable pour tout le monde, hein, le dharma auquel ma vie doit obéir. C'est-à-dire les règles auxquelles ma vie doit obéir. Alors ça peut être des règles communes, mais ça peut être aussi des règles qui me sont entièrement propres. C'est pour ça que là, on est d'un concept où il y a assez peu de. C'est des morales ou des éthiques qui sont assez hautes. Ce ne sont pas forcément des choses où je peux dire à autrui qu'il faut qu'il fasse ceci, cela, etc., parce que c'est bien. Il faut déjà que je trouve comment moi organiser ma propre vie. Donc ça, c'est le dharma donc se décline au niveau de l'individu, mais le même dharma se décline également au niveau de la société. Ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure au début, d'éteindre les choses. Mais le même dharma se décline également au niveau de la société. Et donc, on a dans le fait de vivre ensemble en société, le fait d'arriver à une organisation de la société, à des lois, etc., qui reflètent une certaine justesse. Et il se décline également au niveau du monde, au niveau de, je ne sais pas moi, de la matière, du cosmos, de tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire de tout ce qui forme le terrain, l'environnement sur lequel à la fois l'individu seul existe, le groupe existe et tout, bah, tout ça, ça se passe forcément dans un endroit, il y a une sorte de scène pour ce théâtre, et au niveau de ça, également, le dharma se décline. Et donc là, on pourrait dire que c'est la structure de la matière, c'est la structure du cosmos, ce sont des choses comme ça. C'est-à-dire que vous avez une sorte de loi, alors effectivement, qui est à la fois un niveau personnel, un niveau social et un niveau de l'environnement, un niveau global, un niveau cosmique, on pourrait dire. Et justement, l'une des grandes découvertes de cette pensée, c'est que c'est un seul dharma. C'est-à-dire qu'il y a une même chose qui se décline de trois manières différentes. et finalement de beaucoup plus que de trois manières différentes, parce que à travers chaque individu, ça se décline encore d'une manière différente. Et ça, si vous voulez, c'est une pensée qui, effectivement, en Occident, est, d'une certaine manière, nous est relativement étrangère. Il y a quand même eu des personnes qui ont vu quand même, je pense à, par exemple à Spinoza, entre effectivement les lois de la nature et les lois de la morale, le lien, que ce ne sont pas des choses totalement, totalement différentes, et même un lien très fort qui peut exister. Et je pense également à un penseur du XXe siècle, physicien, enfin microphysicien, comme Lupasco, où il y a quand même une idée, à un moment donné, chez Stéphane Lupasco, que les lois notamment d'antagonisme que l'on voit au niveau de la matière, au niveau de la formation de certains acides comme l'ADN, etc., on peut retrouver le même genre de structure, de mode de formation dès lors qu'on les a compris au niveau de la morale. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait étonnant et qui rejoint la pensée bouddhique. Parce que ici, on pense que vraiment, par exemple, entre la morale individuelle et la science ou la vie en société, bon, certes, il y a des liens, mais on n'a pas l'impression que c'est une même chose qui se décline. Et donc, cette espèce d'homogénéité de la connaissance et de la recherche donc de ce dharma à travers sa vie propre, à travers la vie que je vais avoir en société avec d'autres personnes, comment amener ça à plus de justice, à plus de justesse, et la compréhension que j'aurai du monde, l'idée que c'est cette même chose qui va se poser à trois niveaux, c'est quelque chose qui est extrêmement novateur, enfin à mon avis. Alors je vais continuer à expliquer un petit peu le dharma en parlant de la manière, donc là pour l'instant j'étais au niveau du monde indien. Et en fait, quand le bouddhisme a passé en Chine, donc le dharma, c'est la loi, est devenu cet idéogramme chinois. On ne prononce pas en chinois et pro en japonais. C'est un petit peu la graphie chinoise, c'est 1, 2, 3 traits, 4, 5, 6, 7, 8 traits. Alors, ceux-là, il y en a quelques-uns ici qui ont déjà assisté au cours que je donne, savent que j'attache une certaine importance à ces idéogrammes chinois et surtout à leur étymologie. Alors, c'est pas simplement une forme d'originalité, mais avec l'étymologie des idéogrammes chinois, nous apprenons beaucoup. Et nous apprenons beaucoup sur les expériences les plus anciennes des hommes et de l'humanité. Pour quelle raison? Ici, en fait, si vous voulez, à partir d'un mot français, quand je regarde l'étymologie dans le dictionnaire, on va me renvoyer, en général, vers d'autres langues plus anciennes que le français. C'est-à-dire que je regarde l'étymologie d'un mot et le dictionnaire va me dire que ça vient d'un mot latin ou d'un mot grec. Dans certains cas, d'ailleurs, qui sont pas rares, on peut voir que ça vient également d'un mot sanskrit, parce que le latin, comme le grec, comme le français, sont des langues indo-européennes. J'en parlerai peut-être pas aujourd'hui, mais une autre fois. Et donc, en fait, il y a vraiment dans notre culture la plus ancienne un fond qui est commun et qui est important avec la culture de l'antique. Mais quand on passe de l'autre côté, c'est-à-dire quand on passe dans le monde chinois, quand on regarde l'étymologie des mots, on ne vous renvoie pas vers une autre langue. Parce que les Chinois utilisent encore aujourd'hui, même s'il y a des changements, parfois des simplifications des caractères, la même langue, c'est-à-dire la même graphie, la langue, on ne sait pas, enfin, prononcer, on n'a aucune idée de ce que c'était, même il y a 1000 ans, 2000 ans, enfin, on a très peu d'idées, mais ils emploient encore les mêmes graphies qu'à l'époque où l'écriture s'est constituée. C'est-à-dire, avant, par exemple, quand on regarde l'étymologie d'un mot chinois, ben avant il n'y avait pas d'écriture. Alors cette étymologie, parfois, sont, on n'a aucun moyen de savoir, mais sont justes ou sont imaginaires. Même quand elles sont imaginaires, elles sont très anciennes. Mais on est là, en fait, au niveau, avec le chinois, de la formation de la de l'écriture humaine, enfin, au moins pour les Chinois. Alors que, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est extrêmement différent de ce que nous avons avec nos langues. Parce qu'avec nos langues à nous, finalement, le fait de connaître l'étymologie d'un mot en français ou même d'un mot en latin, on va me renvoyer au fur et à mesure vers des langues plus anciennes. Mais à aucun moment, je n'arriverai à la naissance de l'écriture, à la naissance du concept. Parce que finalement, c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux un mot lorsque l'on connaît son étymologie. Même au fur et à mesure de l'usage du mot, évidemment, il ne veut plus dire aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, être étonné dans le temps, c'est être frappé d'un coup de tonnerre. Donc, c'est plus qu'être stupéfait, être frappé d'un coup de tonnerre. Et le mot français étonné, bon, c'est un exemple, hein, garde encore, même au niveau des sons, cette étymologie. Et on voit que le mot a évolué. Mais, en fait, le fait de dire ça, je comprends mieux l'usage qui peut être fait aujourd'hui, ou même qui peut être fait si je regarde des auteurs plus anciens de ce mot. Et là, c'est vrai que je peux apprendre quelque chose, parce que c'est vrai que, par exemple, dans un texte de Montaigne, ce mot n'aura pas du tout le même sens, enfin, pas du tout le même sens, il aura un sens beaucoup plus fort que lorsque le français d'aujourd'hui le dit, et je dis, j'étais étonné, j'ai vu ça à la rue aujourd'hui. Il a été surpris. Il n'a pas été étonné au sens étymologique du terme, enfin, il faut l'espérer pour lui, du moins. Mais donc, au fur et à mesure, ça permet de mieux comprendre un mot, mais je ne remonte pas à qu'est-ce qu'il y avait avant que les mots existent. C'est bizarre, hein, comme idée. Et en fait, lorsque l'on voit l'étymologie des mots chinois, on arrive, c'est une étymologie jusqu'au niveau le plus ancien, c'est-à-dire qu'avant que le mot existe sous la forme où il existe, il n'y avait pas le mot, il n'y avait pas de mot. Donc là, on est au niveau de la création de la langue écrite. Hein. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et donc, la création de cette langue s'est faite, bon, à différents niveaux, mais on arrive quand même à des époques très vieilles de l'humanité. Et donc, on est en contact avec les premières émotions, d'une certaine manière, des hommes, et nous avons un certain nombre de notions qui nous sont données sur les émotions, effectivement, qui étaient les leurs, la manière dont ils vivaient ensemble, un certain nombre de choses comme ça. Et donc, ces étymologies sont toujours très parlantes, parce que dans cette langue, le mot continue quand même à, même s'il n'a plus le sens forcément qu'il avait lors de sa création, mais au moins visuellement, etc., il continue à garder ce qui a présidé à sa naissance. Ici, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il n'y a qu'un langage qui est par pictogramme qui peut donner cela. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais je vais en donner un exemple, bon, qui n'est pas ce caractère-là, mais qui en a un autre, et après on viendra sur celui-là qui est plus complexe. Si je prends par exemple un caractère qui signifie le nom, comme le prénom du conseiller. En fait, si vous voulez, ce caractère se décompose en deux parties, une partie haute et une partie basse. La partie basse. La partie haute signifie le soir ou la nuit. La partie basse signifie la bouche. Je crois que l'origine de ça, c'est plus ou moins l'une des silences du masqué, je ne sais plus exactement. Et la bouche, on voit bien que c'est la forme de un peu de la bouche, comme un homme qui crie, par exemple. Alors, comment un truc dans lequel il y a à la fois le soir, la nuit, l'obscurité, et la bouche a-t-il pu signifier le nom? qui est vraiment comment dirais-je, un concept très banal, en quelque sorte, le nom que chacun de nous a un nom. Et donc, à la fois la nuit plus la bouche, ça signifie le nom. C'est bizarre comme idée. Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple, une fois qu'on a la réponse. Enfin, ces réponses, en grande partie, sont quand même souvent imaginaires, parce qu'elles ont été faites quand même bien longtemps après. C'est que si je marche la nuit et que je croise un autre homme, je dis mon nom, je crie mon nom. Parce que pour deux hommes qui se croisent la nuit, enfin du moins dans la campagne chinoise il y a plusieurs milliers d'années, hein, ici on n'a plus l'habitude de faire ça, mais c'est quand même assez, ça peut être inquiétant, ça peut être n'importe quoi, que de croiser en pleine obscurité, il y a un autre homme qui arrive. Et donc la chose se passe bien dès lors que l'autre homme, parce que bon, les gens se connaissaient, etc. et tout, et bien dès lors qu'il dit son nom, et je dis mon nom également. Et donc les deux personnes vont se croiser, et dans ce cas-là, ça va, c'est-à-dire qu'on reste dans un registre, comment dirais-je, connu. Alors qu'effectivement, je marche, je suis tout seul dans la campagne chinoise il y a plusieurs milliers d'années, je marche tout seul, au loin je vois quelqu'un qui commence d'arriver, c'est qui, c'est quoi, le propre que c'est la nuit, c'est qu'on voit pas bien. La personne me dit son nom, c'est quelqu'un que je connais, je suis rassuré. Et donc, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que les mots, tels qu'ils sont encore maintenant, sont encore imprégnés des concepts qui les ont vus naître. Et si vous voulez, avant ce concept, il n'y a rien. C'est-à-dire que d'un coup, quand on s'est demandé, quand on est passé d'un langage qui était purement écrit, purement oral, à un langage écrit, et qu'on s'est demandé comment, parce que c'est pas évident. Par exemple, pour le mot nom, pour désigner le nom, la manière que chacun a un nom, comment est-ce que je vais écrire ça sous une forme assez brève, en fait, hein, et assez facile à écrire? Eh bien, c'est simple. Il suffit de mettre la nuit et de mettre la bouche. Alors, pour revenir à notre affaire, le Dharma, lorsqu'il est arrivé en Chine, donc les savants chinois de l'époque l'ont appelé Fa et lui ont donné comme correspondance ce caractère. C'est encore, par exemple, aujourd'hui, quand on dit qu'on fait des études juridiques, c'est encore, par exemple, le caractère qu'on emploie. Chose assez bizarre, mais enfin là, je ne vais pas expliquer, mais il n'y en a pas de... Pour désigner le pays de la France, également. Alors là, c'est plus pour des raisons, entre autres, phonétiques. Mais je ne me pesanterai pas sur ce sujet. Donc, encore aujourd'hui, en Chine, ce caractère, donc comme dans l'Antiquité, désigne la loi, l'ordre, entre autres. Alors, comment on est venu à ce caractère? Alors là, il y a un problème, c'est que c'est beaucoup moins simple que pour l'affaire que je vous ai dit tout à l'heure avec le nom et les deux Chinois nocturnes qui se croisent. C'est que là, en fait, on n'a pas d'idée très nette sur l'origine. Alors effectivement, les dictionnaires donnent des choses, mais ce sont des explications qui semblent quand même relativement tirées par les cheveux. Alors, il y a au moins un amateur de idéogramme chinois qui est présent ici, peut-être n'est-il pas le seul. L'origine du caractère serait un caractère extrêmement compliqué qui aurait été simplifié de cette manière. Alors ce caractère extrêmement compliqué, je suis quelqu'un que je me rappellerai. Regardez cette partie-là, hein, que je retrouve ici exactement, et la partie du bas qui, en quelque sorte, est venue remplacer l'ensemble, est venue de devenir le deuxième élément total, et cet élément-là a été totalement chassé. C'est l'une des explications que donnent les dictionnaires à l'heure actuelle, qui moi, personnellement, ne me satisfait pas pleinement. Alors, la partie qui a été virée représente un animal qui n'existe pas ici, qui à mon avis devait assez peu exister là-bas, qui est une sorte de licorne. Alors on l'appelle licorne parce qu'il y a une seule corne à l'animal, mais ça ressemble pas tellement à la licorne comme dans les tapisseries que nous avons nous ici. Ça ressemblerait plutôt à une sorte de gros élan ou de gros cerf. et avec effectivement une corne devant. Mais même en tant que cerf, c'est pas n'importe quoi. Mais alors cet animal, qui est un animal rare, hein, on n'en voit pas tous les jours, est un animal qui est le symbole de la justice, parce que normalement, il connaît les fautes des hommes. Là, c'est la justice vraiment juridique. Et donc, c'est uniquement quand il y avait des empereurs extrêmement vertueux qu'il y avait des licornes qui naissaient dans le pays. Et donc, n'ayant jamais vu pour ma part de licorne, enfin du moins pas encore, donc je suppose que je n'ai jamais eu la chance de vivre sous le règne d'un empereur extrêmement vertueux, quoi. C'est vraiment un manque de chance totale parce que j'aimerais quand même bien voir ce genre d'animal un jour, une fois dans ma vie. Mais dans les tribunaux chinois, au moins jusqu'au Moyen Âge, cet animal était souvent définé, même sur le devant de là où se tenait le juge. Et donc l'une des comment dirais-je, des étymologies possibles du caractère qu'a donné le caractère loi serait effectivement le fait que la loi à tout niveau, est-ce qu'il doit être aplanir les choses, est-ce qu'il doit être plat comme l'eau? Parce que, en fait, c'est facile là, c'est l'eau, les trois petits points. Et donc, elle doit aplanir les choses et être plate comme l'eau. Elle doit s'exercer par le truchement, ou à l'exemple de ce que fait cet animal qu'on appelle une licorne. Et ce caractère-là qui veut dire partir, et aussi, en fait, porter plus loin que là où est l'interlocuteur, donc même extirper, donc elle doit extirper le vif. Et donc il serait resté que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est cette partie-là et cette partie-là. Mais là où je veux en venir, c'est que en fait, les Chinois emploient ça depuis vraiment très longtemps, à mon avis, ça fait quand même. Même dans les textes confucéens, donc ça, à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, on trouve ça. Donc, même si c'est un caractère qui est simplifié ou quoi que ce soit, les gens depuis très très longtemps, donc depuis plusieurs millénaires, sont habitués à ça, et quand même tous le lisent comme étant la racine de l'eau, et quelque chose qui indique le fait de partir, de ce qui bouge, qui indique le mouvement. Et je pense que c'est pour ça que les choses sont restées, parce qu'en fait, dans l'eau, il y a sa propre structure. Et le propre de la structure de l'eau, c'est qu'elle bouge. Si vous voulez, l'eau, vous regardez un ruisseau, vous regardez n'importe quoi, l'eau ne reste pas en place. Mais, de par sa structure, elle ne va pas n'importe où, même si elle ne reste pas en place. Il y a une manière, il y a un dharma qui fait que l'eau bouge d'une certaine manière. L'eau ne remonte pas vers les sources, elle descend des sources vers les estuaires. Donc, il y a un ordre, il y a une loi dans le mouvement même de l'eau et qui, comment dirais-je, est lié à la propre structure de l'eau. Et donc, cette loi dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de l'avoir signifiée sous la forme de l'eau et du mouvement, l'eau est par exemple quelque chose à la fois de, comment on pourrait dire, de purifiant et également d'ordonné. Et donc, pour rendre la notion du dharma, c'était un bon symbole. Alors, il y a des notes qui vous sont données à la fin de cette conférence, et dans les notes, là je ne vais pas m'appesantir, mais j'ai rapproché ce caractère donc du dharma d'un autre caractère qui est le ri et qui est le principe. Souvent d'ailleurs, il y a des textes où l'un peut être mis un petit peu pour l'autre. Et dans le caractère du ri, la base du caractère, la clé, ce qu'on appelle la clé du caractère, est le jade. Et pour donner cette idée de principe, c'est-à-dire d'une loi, mais qui est interne aux choses, le jade a toujours été la pierre, sans doute l'une des pierres les plus recherchées en Chine, et au moins au niveau symbolique, la plus estimée. Il est le symbole de la loyauté, de la fidélité, de la beauté également. Mais c'est une pierre qui n'est pas facile à travailler. En plus, c'est une pierre, il n'y en a pas en Chine, donc ils ont toujours été obligés de l'importer. Donc, pour eux, le fait d'avoir choisi comme pierre qui leur semble, comment dirais-je, la plus estimable, une pierre qui vient de l'extérieur, c'était déjà une contrainte. Mais la personne qui travaille le jade, donc qui est une pierre dure, il doit comprendre la structure de la pierre qu'il est en train de travailler. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec la pierre, parce qu'il y a des veines dans la pierre, il y a un sens dans la pierre. Ce serait vrai également pour un morceau de bois. Hein. Et il ne peut pas, c'est pas du plâtre. Il ne peut pas vraiment le modeler comme il veut ou en faire ce qu'il veut. Et alors, effectivement, il y aura une très très grande différence entre le résultat de ce à quoi arrivera un artisan très habile et un qui n'est pas habile. Il y aura une très très grande différence. Mais l'un comme l'autre sont obligés de tenir compte du dessin de la pierre, des veines de la pierre, dans quel sens va la pierre. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc ça aussi c'est la notion du dharma. C'est-à-dire que entre une personne qui a une grande habileté, une grande connaissance, et une personne qui en est dépourvue, il y aura une différence. Mais l'un comme l'autre, s'ils veulent arriver à un résultat, même si on pense que le résultat pour celui qui est mal habile est un résultat de peu de choses, et que pour celui qui est très habile c'est un résultat important, mais l'un comme l'autre doivent aller dans le sens de la pierre. Et pour nos vies c'est la même chose. C'est-à-dire que quoi que l'on veuille faire de sa propre vie, il faut comprendre la structure et travailler dans le sens de la structure. On peut pas aller, quels que soient les désirs que l'on a, même les illusions que l'on a, mais si on veut aller à contresens de la structure, ça va être un désastre. Mais ce ne sera pas pareil, je veux dire, pour la personne qui a bien compris la structure et qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'applications pour faire quelque chose de sa vie, et celui qui a à peu près compris la structure et qui laisse les choses un peu aller. Mais l'un comme l'autre, déjà, s'ils commencent à appréhender, s'ils sont dans cette recherche de la structure, ils peuvent arriver à quelque chose d'important. Alors, la conséquence sur la société indienne de cette perception du dharma, c'est qu'il doit y avoir un ordre aux choses, et il doit y avoir un ordre à la société, a été une conséquence contre laquelle le bouddhisme s'est, comment dirais-je, révolté, c'était pas le terme, parce qu'il n'y a pas eu de révolte, mais enfin du moins c'est, c'est opposé, à savoir l'existence d'une société sous forme de caste bien définie. Alors, la société sous forme de caste, c'est une chose qui existe depuis la plus haute antiquité indienne et qui existe encore aujourd'hui en Inde. Même si les castes ne sont pas du tout reconnues dans la constitution indienne, mais elles ont une existence réelle pour les personnes, pour la manière dont les gens vont se marier, pour la manière dont ils vont vivre, pour des choses comme ça, etc. Alors, je suppose qu'au fur et à mesure, ce genre de choses va changer et va s'amenuiser, on peut l'espérer d'une certaine manière, mais au moins c'est une réalité quand même sur laquelle cette société a vécu pendant de très nombreux siècles. Je pense minimum, il faut voir à peu près 4 millénaires, donc c'est quand même pas... on peut penser que le système des castes est un système qui est injuste, qui est anachronique, qui est tout ce que vous voulez, c'est un système qui dure 4000 ans quand même. Des systèmes qui durent aussi longtemps, il y en a assez peu en tant que système social. Hein. Alors, cette répartition en castes, c'est une répartition en 4 castes, plus autre chose qui est hors caste. Et il vaut mieux pas être dans la dernière catégorie. Alors, du plus haut vers le plus bas, il y a la caste des brahmanes, qui est en fait l'élite sacerdotale. La caste des kshatriyas, c'est les guerriers, c'est les gens qui ont le pouvoir, qui ont la force, d'une certaine manière. Le Bouddha faisait partie de cette caste. Le Bouddha est un kshatriya, c'est un guerrier. Enfin, il a passé énormément la guerre, mais il a été quand même formé dans cette caste. La caste des Vaishyas. En fait, eux, ce sont les gens qui produisent économiquement, hein, ce sont les artisans, les cultivateurs, les paysans, hein, artisans, paysans. Et la caste la plus basse, hein, qui est la caste des Sudras. Ça, ça existe encore, hein, tout ça. Hein. Qui sont les serviteurs, finalement, des gens qui sont dans les castes au-dessus. Et puis, il y a, en dehors de ça, les gens qui sont hors caste. Et donc, qui sont plus bas que le plus bas. Alors, si vous voulez, c'est un ordre, donc, entre le rôle spirituel, le rôle, militaire, guerrier, et le rôle paysan, économique. En fait, c'est ce que déjà Dumézil voyait comme étant le point commun entre toutes les civilisations des indo-européens. Et si vous voulez, la société, nous sommes des indo-européens, les Grecs également, et en fait, par exemple, même la société de l'Ancien Régime, hein, vous aviez, mais alors, pas forcément dans cet ordre-là, vous aviez le clergé, vous aviez la noblesse, et vous aviez le tiers-état. La société féodale, c'est pareil. Et alors là, peut-être la société féodale, c'est d'abord beaucoup plus proche de ça, parce que, normalement, il y a une primauté au spirituel, au religieux. Et ensuite, il y a eu la nécessité d'un bras armé pour défendre la société que l'on a, et ben, il y a aussi la nécessité de faire manger tous ces gens-là, hein, et de produire des biens, etc. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la société indienne antique, les brahmanes sont à la place la plus haute, mais ce n'est pas une place haute comme nous la verrions nous aujourd'hui, parce que le pouvoir politique, le pouvoir juridique est tenu par les kshatriyas, donc par l'aristocratie, par la noblesse, hein, même si exactement il n'y a pas exactement une concordance avec les schémas que nous avons ici, parce que l'une des caractéristiques de ces gens-là, c'est qu'ils peuvent, enfin ceux qui sont désignés pour ça, rendre la justice. Quelqu'un qui rend la justice est quelqu'un qui peut être amené à prononcer des châtiments. Surtout en ces époques reculées, les châtiments étaient assez durs. Aujourd'hui, ils le font aussi, mais d'une autre manière. Et donc, on pensait que quelqu'un qui pouvait être amené à effectuer des punitions, des châtiments sur les personnes, du moins telles que ça faisait à l'époque, et qui doit donc s'intéresser au processus juridique, au fait de punir, etc., etc., ne peut pas être au niveau le plus haut. Donc il y avait déjà une sorte de séparation, on pourrait dire, des pouvoirs. Et donc le niveau le plus haut est forcément un niveau où les personnes ne sont pas impliquées dans, dans la vie politique réelle de la société, dans la vie politique, juridique, etc., militaire. C'est quand même des époques où il fallait se protéger, et protéger la population qui est avec toi, mais d'un point de vue vraiment physique, il fallait porter de la personne. Et donc, le monde est en bon ordre lorsque chacun est à sa place, parmi ses différentes castes, et que chacun à sa place fait bien le devoir qui est le sien. Donc, le brahman, lui, est dans un phénomène, il doit connaître les prières, il doit faire les différentes les sacrifices pour le feu, les choses comme ça, etc. Et il doit être honoré par les kshatriyas. Quand on lit la littérature, je veux dire, ça arrive très souvent que les kshatriyas, vis-à-vis d'un brahman, dès qu'il le voit, immédiatement il lui donne un troupeau avec plusieurs vaches, ou je ne sais pas quoi, des chèvres, ou des choses comme ça. Bon, c'était les richesses de l'époque, hein. Et donc, les brahmanes jouissent d'un immense prestige. La chose existe encore à l'heure actuelle, hein. Même si ce n'est pas de la même manière que dans l'Antiquité, mais vraiment pour quelqu'un qui est brahman, épouser par exemple une femme qui serait d'une autre caste, c'est complètement déchoir. Hein. Et évidemment, ces gens-là se marient, se reproduisent entre eux. Sachant qu'en même temps, certaines castes sont elles-mêmes sous-divisées. Notamment, par exemple, pour les vaishyas, donc les artisans et tout, en guildes de métier ou de choses comme ça. Et donc, les personnes qui résulteraient d'une union entre des personnes de castes différentes, eux, donc, tombent dans la catégorie des hors-castes. Et au niveau de ces hors-castes, encore là, il y a des graduations. Donc, on est dans quelque chose qui est extrêmement graduel. et un ordre qui est quand même un ordre relativement lourd.
Aucun ordre a été donné à l'heure 4.
Ben, alors qu'il est hors caste, alors à l'heure actuelle, mais c'est un mot qui est récent, il est paria. Bon, mais je pense qu'avant, il y avait par exemple des mots même qui étaient beaucoup plus durs, hein, parce qu'il y a des choses où, par exemple, on employait le mot inhumain. Enfin, je ne sais pas si c'est inhumain, mais c'est ceux qui ne sont même pas des hommes, quoi.
C'est secrétaire du Est-ce que dans leur tête, il reste vraiment...
Bah alors, je veux dire, maintenant on est à l'époque moderne, donc tout ça c'est individuel, hein. Là je parle de choses anciennes, mais par exemple, je pense par exemple à quelqu'un, par exemple un écrivain comme Naples par exemple, qui est vraiment, enfin même s'il écrit en langue anglaise, hein, et qui est vraiment quelqu'un qui est porteur d'une certaine culture indienne, qui est quelqu'un qui est né dans le dans les Antilles, enfin dans le bout des Antilles, là où ça touche le Venezuela, donc à Trinidad et Tobago, et donc lui... dès qu'il est né, bon, il y a quand même très peu d'Indiens là-bas dans ce genre d'endroit, et ils ont été importés pour travailler à des époques assez dures. Et donc lui, dès qu'il est né, il est conscient qu'il fait partie d'une famille de brahmanes, quoi. Son père est brahmane, sa mère est brahmane, il fait partie d'une famille de brahmanes, un point c'est tout. Et pour lui, c'est évident qu'il le reste toute sa vie. Alors, je ne sais pas du tout si les personnes maintenant, c'est sûr que c'est quelque chose qui est en train... de beaucoup perdre de son influence, surtout pour les Indiens qui vivent à l'étranger depuis plusieurs générations, mais c'est quand même, comme je vous l'ai dit, un système qui a duré quelques milliers d'années. Donc c'est un système qui tient. C'est également sans doute un système qui a généré beaucoup de souffrance et beaucoup de choses étonnantes. Mais c'est un système... Je pense qu'ici, on a été organisé sur un système, je dirais, relativement comparable également. Hein. Même s'il n'y avait pas vraiment la notion de caste, même s'il y a des gens qui pouvaient accéder à la noblesse sans être à l'époque des croisades ou des choses comme ça, sans être forcément nobles, mais les gens qui pensent qu'ils sont de telle ou telle extraction, ils en ont vraiment le sentiment, quoi. Et c'est une partie importante de leur personnalité. Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ce sont des personnes donc qui, pour différentes raisons, alors ils sont peut-être le fils ou les enfants eux-mêmes d'intouchables depuis des générations et des générations. Hein. Mais ou alors et par exemple, il y a une des classes hein, les plus basses des intouchables, sont ce qu'on appelle des Kandala. Alors eux, c'est vraiment pas de chance. Et eux, ils viennent d'une mère qui est brahmane avec un père qui est sudra. Alors là, vraiment, vous tombez au plus bas de ce genre de caste, parce qu'on pense que vraiment, cette femme qui est d'origine brahmane, qui a rien trouvé, qui finalement a eu un enfant avec un homme qui fait partie de la dernière caste, parce que là, vraiment, on a descendu les escaliers d'une manière un petit peu rapide, quoi. Et donc... Dans ce cas-là, on devient un Kandala, c'est-à-dire parmi les hors-castes, les parias, vraiment quelqu'un d'un niveau très très bas. Parce que le propre de ce genre de société structurée, c'est qu'elle structure tout. Quand j'en parle comme ça, on dit juste qu'il y a quatre castes, mais non, mais à l'intérieur, il y a encore des subdivisions. Alors qu'ils sont moins fortes, comment dirais-je, que les subdivisions en passant d'une caste à l'autre, parce que là, c'est vraiment énorme comme différence, mais à l'intérieur de ce genre de système, il y a des structures.
Quand on est dans une classe, dans une classe inférieure, on ne peut pas monter des
échelons. Bah, à l'époque moderne, oui. À l'époque moderne, oui. À l'époque moderne, oui, je suppose. Mais dans l'Antiquité, oui. Bah, pareil, hein, ici, vous, quelqu'un qui naît serf au Moyen-Âge, eh ben, c'est vraiment pas de chance. Et il ne terminera pas duc de n'importe quelle manière. Ou alors, il faut vraiment qu'il fasse une révolte de paysans, je ne sais pas quoi exactement, mais enfin, quelqu'un... C'est l'ordre vraiment des civilisations indo-européennes. Pareil dans la Grèce antique, quelqu'un qui était esclave, c'était pas formidable. Dans la Rome antique également. Hein. Donc il faut surtout pas voir ça comme quelque chose d'exotique. C'est également, je pense que nos civilisations sont également basées sur des choses peut-être moins apparentes et moins dites, mais tout aussi efficaces. Alors, si vous voulez, alors, justement, cette affaire, voilà où je voulais en venir, cette affaire de la métempsychose, hein, c'est que si vous voulez, en fait, quand on reçoit la vie, quand on est, je nais dans une famille de Brahma, de Kshatriya, de ça ou ça ou de hors caste. Et donc on pense que déjà, pour que ce système repose sur quelque chose, le système de la métempsychose, c'est-à-dire le fait que la vie revienne sans cesse, c'est quand même extrêmement pratique. Parce que si je venais dans une bonne caste, c'était finalement le fruit de bonnes rétributions. Et si je renais dans une mauvaise caste, c'est le fruit de mauvaises rétributions, de mauvais actes que j'ai commis. Donc la société reflète l'ordre moral en ce sens où, dès lors qu'on a un système qui est extrêmement inégalitaire, il faut pouvoir expliquer pourquoi il y en a qui naissent au bon endroit et pourquoi il y en a qui naissent au mauvais endroit. Ou alors dire, eh bien c'est injuste. On est au hasard et certains possèdent énormément d'entrée de jeu et d'autres ne posséderont quasiment rien. C'est pas seulement les richesses, hein, c'est également parce que les Brahmanes ne sont pas forcément riches, mais c'est le savoir, c'est le fait de vivre d'une certaine manière, d'avoir un peu connaissance. Et donc, si le fait que je naisse à un endroit ou à un autre est la rétribution d'actes que j'ai commis, si c'est des actes mauvais, je vais naître dans une condition qui n'est pas bonne, par exemple je vais naître avec un bras en moins ou différentes difformités physiques, mentales, ce que vous voudrez, et le fait que je naisse dans de bonnes conditions, ça aurait été, finalement c'est juste, parce que ça aurait été la rétribution de bons actes que j'ai effectués. Donc il y a une justice. Cette justice, on ne la constate pas forcément sur Terre, en ce sens où parfois on voit des personnes qui sont ou méchants ou injustes et tout, et qui arrivent à des positions importantes ou ça, on dit, ben c'est pas grave du tout, parce que quand il reviendra, celui qui est méchant, qui est injuste, qui est cruel, le mauvais roi et tout, eh ben, a priori, il peut revenir dans quelque chose, même au pire, il peut revenir même animal, par exemple. Donc il est même, ça c'est bon pour les humains, hein. C'est-à-dire, après, il y a des conditions animales, ou même des conditions pires, des conditions infernales, des conditions... vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce système, avec cette espèce de roue de la vie qui n'arrête pas de tourner, qui est éternelle, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça sous-tend le système social également. Alors, on verra la fois prochaine quand on étudiera le personnage du Bouddha, c'est que bon, lui, il a rejeté tout ça. Parce que ça lui a semblé quand même un petit peu trop fort. Mais, c'est un système qui est important. Alors, pour revenir à ce que je disais au début, c'est un peu par ça que je voudrais terminer. Il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais ça fait quand même plusieurs feuilles. Hein. Le système donc, du samsara, c'est-à-dire cette espèce de la métempsychose, le fait que la vie revienne toujours. Moi, j'ai toujours été très surpris parce que ici, c'est quelque chose qui est jugé comme étant quelque chose de relativement positif. C'est-à-dire qu'on dit que c'est l'éternité de la vie. La vie revient toujours, je reviendrai toujours, etc. Parce que je pense qu'ici, il y a une crainte extrêmement grande, simplement que la vie s'arrête. Et donc, on dit, ça continue sous une autre forme, c'est bon, ça continue. C'est ce que je pense, du moins. Hein. Mais je ne sais pas, en Asie, c'est ça, l'expérience du samsara, c'est jugé comme étant quelque chose d'extrêmement pénible, extrêmement douloureux et quelque chose qu'il faut arrêter. Alors que ici, les personnes sont tellement convaincues que la vie s'arrête, intérieurement, quelles que soient les choses dans lesquelles ils croient, etc., mais que la vie s'arrête à la fin de leur vie, qu'on leur dit, ah oui, mais les actes que vous avez commis, ben, ça fait qu'après, vous viendrez. Le seul problème, c'est que c'est pas eux qui reviennent. C'est les actes qu'ils ont commis qui reviennent. C'est bizarre, hein, comme pensée. Et au même titre que, par exemple, si on dit dans une existence passée, mettons, j'étais n'importe quoi, une souris, un éléphant, ou ce que vous voudrez, ben oui, mais actuellement, je ne suis plus une souris ni un éléphant. Et j'ai aucun souvenir de la souris que j'étais, ou de l'éléphant, ou d'un autre homme, ou d'une femme, ou de n'importe quoi. Donc, effectivement, ce système doit amener quand même à une forme de compassion active envers les autres êtres, que ce soit des animaux ou des humains. Par contre, dit, j'ai peut-être été un animal, j'ai peut-être été une autre forme d'homme, etc., etc. Mais il y a quand même dedans un élément qui est extrêmement pénible et qui, ici, en général, n'est pas vu. Oui, on voit souvent des personnes qui maintenant croient dans ce qu'ils appellent la réincarnation, des choses comme ça. Et finalement, on a l'impression que c'est un truc qui est confortable parce que les personnes pensent, eh ben voilà, la vie ça continue. Enfin bon, je parle à leur place, donc peut-être que si eux parlaient, ils diraient des choses plus intelligentes, Mais quand même, en Asie, ce même phénomène de la réincarnation, c'est de la mieux. Alors lui, je ne sais pas en quoi il va être incarné, mais. Donc, j'espère que ça tienne. Donc, en Asie, ce même phénomène de la réincarnation est jugé comme étant quelque chose qui est tout à fait pénible et dur. Et pour vous donner un exemple, pour bien le comprendre, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'individu, à l'instant présent, n'a que la mémoire qu'il a. C'est-à-dire que même si j'étais d'autres choses dans d'autres vies, sincèrement, j'en ai aucune souvenance. Même des choses que j'étais dans cette vie-là, même entre le petit garçon que j'étais quand j'étais très jeune et la personne que je suis maintenant, il y a évidemment des rapports, mais il n'y a pas une continuité absolue. C'est bizarre à penser, mais pourtant c'est vrai. Et donc, même si j'étais d'autres choses dans d'autres existences et que dans le futur je serais d'autres existences, eh bien, il faut voir ça, à peu près comparer ça à un homme qui, tous les matins, quand il se réveille, sera amnésique. Et là, on peut commencer à imaginer l'inquiétude qui est la sienne. Parce que, effectivement, pendant le temps du sommeil, je rêve, etc. Et le lendemain, je me réveille, mais je suis encore moi quand je me réveille. Ou alors, là, ça devient grave. Mais quelqu'un qui, à chaque réveil, aurait perdu le passé, dans ce cas-là, chacune de ces journées n'a aucun sens. Ou du moins, n'a le sens que de cette journée-là. Mais c'est une expérience qui serait dur et pénible. Et donc, vis-à-vis de cette expérience du samsara, on a l'idée que c'est également quelque chose, donc c'est un point de vue quand même très négatif sur le monde. On a l'impression que c'est quelque chose qui est tout à fait pénible. Parce que on ne sait pas ce qu'on a été, et puis il y avait quand même l'idée dans cette société indienne que la vie n'est pas facile. Et que la vie comporte énormément d'épreuves. Et donc, on a les épreuves au fil de la vie, et puis, ensuite de quoi, on ne sait pas. Et donc, il y avait une inquiétude énorme. C'est-à-dire que les gens, le brahmanisme, donc, qui était la religion qu'il y avait à l'époque, qui avait donné ce système, on a vu tout à l'heure du dharma, ce système des castes, etc., ça, on a l'impression, ça a marché pendant un certain temps, dans la tête des personnes. Et il y a un moment donné, et c'est un petit peu avant l'époque où le Bouddha est apparu, où ça continue à marcher, mais c'est davantage les aspects inquiétants de cette chose-là qui étaient perçus par les personnes. Et donc, il y a une inquiétude très grande qui est née à cette époque-là. C'est-à-dire que les gens, ils avaient bien assimilé sans doute ces doctrines, et puis, ils se disaient... Et qu'est-ce qu'il va en être de tout ça? C'est-à-dire qu'on a compris l'explication du monde qui est donnée par le brahmanisme, mais cette explication du monde a quelque chose qui nie la personne, qui nie l'avenir de la personne. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Et c'est à cette époque-là qu'est né le bouddhisme, qu'est né également d'autres religions de l'Inde, qui ont été, vis-à-vis de cette inquiétude, une forme de réponse. Donc ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine dans la personne du Bouddha, qui est également un homme qui a traversé une crise spirituelle très importante. C'est-à-dire que cette doctrine, finalement, il y a un moment donné où elle ne produit plus que des choses qui sont jugées comme étant relativement inquiétantes pour la personne. Et ça génère une crise spirituelle. Et vis-à-vis de cette crise, alors ça, bon, il faut bien voir que c'est à l'échelle de civilisation, et vis-à-vis de cette crise, le bouddhisme a été l'une des réponses à ce prix, justement, du samsara et de la vie qui revient sans cesse. Et c'est une constante dans la pensée bouddhique, en fait, que justement, c'est qu'il doit y avoir un moyen de sortir du samsara. Bon, là, j'ai dit un terme qui sont très, très prosaïques. Et, par exemple, l'un des rénovateurs du bouddhisme, qui s'appelait Nichiren, donc qui a vécu 18 siècles au Japon, 18 siècles après l'époque antique de l'Inde dont on parle, reprend exactement les mêmes termes et dit dans un de ses premiers traités, « Si vous voulez interrompre le cycle sans commencement des vies et des morts, et cette fois-ci attester de l'éveil suprême, vous devez alors examiner le principe merveilleux des êtres en son état originel. » Et donc, il y a cette idée que, si vous voulez, interrompre le cycle sans commencement. Ce cycle n'a pas eu de commencement, il n'est pas forcément bon pour nous, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc, est-ce qu'il est possible de l'interrompre? Et c'est à cette question qu'a répondu le bouddhisme, qu'a répondu également d'autres pensées indiennes. Donc, si pour jeu, là, j'étais peut-être un petit peu long, parce que mais c'était un petit peu le début de notre affaire. Donc, si vous pouvez retenir les principales notions qu'on a vues aujourd'hui, c'est-à-dire la notion justement des actes et de cette production des actes, la notion donc de la vie, en fait, qui revient, et la notion de l'ordre, de la loi, du dharma, ce sera déjà une bonne chose. Les textes vont être distribués et si vous le souhaitez, ben maintenant on peut discuter et je peux répondre à des questions que vous pouvez avoir sur ces différentes choses.
Je ne sais pas très bien dire comment la doctrine est nommée, les textes vont distribuer quand?
À la fin de la réunion, madame.
Alors, on peut les obtenir au secrétariat.
Je suppose, ou alors quelqu'un les amènera, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Oui.
Une question?
Oui.
Si j'ai bien compris, entre Karman, les actes,
oui,
et Dharma,
oui,
la loi,
oui,
règle,
oui,
individuelle,
oui,
quelle est la place laissée à la liberté?
Oui. Alors, en fait, c'est un peu le problème que l'on avait tout à l'heure lorsque j'ai évoqué la personne qui travaille le jade. C'est-à-dire qu'il y a une liberté qui existe, mais qui est loin d'être une liberté absolue et totale. Je ne peux pas devenir n'importe quoi. Miss Monde ou je sais pas quoi. Je peux essayer, mais j'aurai quand même des difficultés. Ou alors, ce sera uniquement au niveau mental. Mais je peux devenir un homme meilleur que l'homme que je suis. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le phénomène de la production des actes. C'est-à-dire qu'à chaque moment, je suis producteur d'actes. Alors, où je décide de laisser les choses aller, et donc je produis des actes d'une manière insouciante ou quoi que ce soit, ou à l'inverse, je commence un travail réflexif. C'est-à-dire que maintenant que je sais que les actes que je commets, que j'effectue, sont vraiment à la base de l'homme que je serai, dans ce cas-là, je peux décider de soigner les actes que je ferai, actes petits ou grands. Et donc, c'est effectivement à partir de là que commence une vie éthique. Oui.
Déjà. Et comment on peut parler d'éthique, justement, par rapport au principe dont vous avez parlé tout à l'heure, du principe des choses, d'un ordre qui est neutre des choses. Donc, ai-je mal compris la notion de l'arbre?
Je ne sais pas si le dharma est neutre. Enfin, je ne sais pas si on peut appliquer le mot neutre. Neutre dans quel sens?
Dans le sens où on parle d'actes positifs et négatifs dans des actes moraux.
Oui.
Le principe des choses sont des choses en soi qui seraient neutres. C'est simplement être dans l'ordre des choses. Est-ce qu'avoir un bon karma, un mauvais karma, c'est aller contre l'ordre des choses, donc sans connotation du tout morale? Ou bien avec une connotation morale?
Il y a forcément au dharma une connotation morale. Morale, alors pas au niveau le plus bas ou quoi que ce soit de la morale, là, chacun en fait ce qu'il veut, mais il y a une connotation morale. Les actes que j'effectue à chaque instant, pour moi, ne sont pas neutres. Certains actes me coûtent. J'ai pas l'impression que nous visions quelque chose au niveau de la production des actes qui soit neutre. Les actes qui sont effectués par les autres hommes et la manière dont je les ressens, c'est pas neutre. Oui.
Quand on dit dans le karma que nos actes nous constituent,
oui,
en fait, c'est là que Sartre a appliqué sa théorie, la théorie de la liberté, à savoir que nous sommes simplement un être humain né que la somme de ses actes.
Oui, oui.
Et rien d'autre.
Oui, ça c'est très bouddhique, ça. C'est très bouddhique comme pensée. Oui.
Et autre chose. Est-ce que l'ordre et la loi dans le dharma,
oui,
correspond à quelque chose comme un maat égyptien qui était en même temps la règle et qui ne pouvait être dite que par Pharaon, et c'est-à-dire qu'il n'y avait que lui qui pouvait dire cette loi ou cette règle, et quel est le rapport à ce moment-là de la loi et de la règle?
Alors, le problème avec le dharma, c'est que en aucun moment on dit qui est susceptible de le dire. Tout le monde peut en dire ce qu'il veut. Certaines personnes, ce sera beaucoup plus judicieux que ce que diront d'autres personnes, mais il n'y a pas quiconque qui, par son statut, peut dire le dharma. Pour les anciens indiens, il y avait une révélation qui existait au travers des premiers livres sacrés, où donc là, le dharma était dit d'une certaine manière, et cette chose-là était irrévocable. Mais ensuite de quoi, on voit bien que dans le développement des sciences, dans le développement de la connaissance, le dharma devait également s'exprimer, et de manière dont il n'avait pas été exprimé précédemment. Et là, qui peut le dire, qui peut, il n'y a pas de règles qui font que quelqu'un serait plus susceptible. Le dharma est quelque chose qui nous dépasse. Donc, il n'y a pas une règle qui ferait que telle personne serait davantage susceptible de le dire que d'autres.
Autre chose, là, on voit entre Brahman, la pensée religieuse, disons, et les Kshatriyas qui sont le pouvoir, on peut dire le pouvoir temporel, oui. Militaire, la force. Est-ce que cela, c'est ce qui s'est passé au Japon, quand le Mikado a pratiquement n'avait plus qu'un rôle d'emblème, et puis ce sont les shoguns, c'est le shogunat qui a prévalu, et l'empereur a été relégué.
Alors,
une cité autre, et ce sont les shoguns qui ont dirigé, et que même, on dit qu'en 1945, lorsque l'empereur s'est adressé à la nation pour annoncer qu'il voulait se... qu'il fallait une reddition sans conviction, et bien il paraît que le peuple ne l'a pas compris parce qu'il parlait lui-même dans un japonais ancien. Donc il était complètement séparé. Et donc les Kshatriyas, est-ce que c'est la même chose le rapport entre le Mikado Shogun et le Kshatriya Brahman ou pas du tout?
Non, parce qu'en fait, cette notion avec les différentes castes, vous savez, mais est valable pour les Européens, européens, pas pour les gens d'Extrême-Orient. Et par exemple, en Chine, à partir du 6e siècle à peu près, les militaires ont toujours eu un statut très bas, au même titre par exemple que les prostituées. Donc c'est pas du tout la même organisation de la société. Et par exemple, vis-à-vis de ces ordres, alors on peut trouver des correspondances, parce que dans toute société, vous avez des prêtres, des cultivateurs et des guerriers, mais au niveau de l'organisation même de la société, le type de société chinoise est un autre type de société que celui que j'ai décrit là. Et où là, on a une relation ternaire qui est complètement différente, c'est-à-dire que la notion entre l'existence ce qu'on appelle en Chine le ciel, le roi qui est entre les deux, et les hommes. Et donc là, c'est un ordre ternaire qui est complètement différent, et en fait de quoi l'ordre de la société doit refléter cette espèce de conception globale. Et les Japonais ont, eux, incorporé essentiellement le savoir chinois. Donc, on n'est pas dans cette espèce de système de caste. Et d'ailleurs, le propre de la société japonaise pendant longtemps, c'est que là, vraiment, c'était une société où tout le monde pouvait devenir n'importe quoi. C'est une société du tous seul contre tous et tous contre moi, et où effectivement on voit des gens de très basse extraction qui sont arrivés à des postes très hauts et donc des mouvements, c'était une société extrêmement agitée. Alors que la société, comme on l'a vu en carte, c'est une société à l'inverse très immobile. Alors, l'origine des castes, il y a différentes explications qui existent, qui sont peut-être vraies, peut-être pas, mais qui sont toutes des explications imaginaires. C'est-à-dire que ça remonte tellement loin dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de choses comme ça. Les textes rendent compte des choses après coup. Et donc comment cette chose a pu s'imposer à des hommes quand même nombreux pour l'époque, on ne sait pas. Certains ont pensé que peut-être la différence entre les castes était à l'époque une différence entre certaines races, parce qu'en Inde, vous avez quand même dit différentes races. On a pensé que c'était également lorsque les invasions des Aryens, donc eux ont mis une sorte d'ordre qui portait avec eux, et que les gens qui ne faisaient pas partie de leur groupe se trouvaient relégués à des castes plus basses, mais tout ça est imaginaire. En fait, on peut constater le phénomène, on peut constater que le phénomène a perduré, mais sur l'origine, on n'a aucune idée. Ça remonte à très loin, je pense qu'on n'a pratiquement pas d'idée de ce qu'étaient des peuples comme ceux qui vivaient sur le territoire où nous sommes à l'heure actuelle, à ces époques-là. Où c'est des idées où là, on ne sait pas ce qui se passait au niveau de leur organisation, des choses comme ça. On est quand même dans des périodes très lointaines de l'humanité. Oui. C'est les époques, on pourrait dire presque proto-historiques, quoi, oui. Oui, 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 par là, oui, donc ça remonte à loin, quand même. Non, des idées, mais savoir qui a eu l'idée d'un système et de la manière dont ce système a pu être adopté et tout, là, vous avez quand même intérêt pour comprendre, avoir vraiment des vraies sources historiques dans le type des sources modernes. Sans ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des théories qui existent, mais en même temps qu'on lit ces théories, il faut comprendre leur caractère imaginaire. Oui. Alors, je voyais quelqu'un de... Juste une seconde. Oui.
Si le bouddhisme a été utile à une époque,
oui,
pour résoudre la question de la réincarnation ou de la métempsychose,
oui,
est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans nos sociétés occidentales, pour des personnes pour qui ce problème ne se pose pas, parce qu'ils ne croient pas ni à la réincarnation, oui, ni à la métempsychose, est-ce que le bouddhisme peut leur être utile? Et pourquoi? De quelle façon?
Là, c'est un débat qui est difficile. Mais enfin, au moins, considérons que le bouddhisme peut être un moyen d'acquisition et de connaissance de ce dharma dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le terme dharma, par la suite, dans la doctrine bouddhique, a fini par désigner la doctrine elle-même. Parce que il y avait nécessité de faire coïncider cette doctrine avec l'ordre du monde. Et donc on a dit, si cette doctrine ne rend pas compte de l'ordre du monde, elle n'a pas de raison d'être. S'il y a de nouveaux penseurs du bouddhisme qui écrivent des choses qui n'ont rien à voir avec ce dharma, c'est-à-dire l'ordre du monde, que ce soit à un niveau individuel, collectif ou cosmique, dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc au fur et à mesure, le bouddhisme s'est constitué finalement par une réflexion sur le dharma, et qui dans beaucoup de cas ressemble à, enfin peut-être pas exactement de la manière dont nous le voyons nous aujourd'hui, mais à l'acquisition scientifique. Parce qu'il y a des écoles bouddhiques de logique, de grammaire, de choses comme ça. Hein. Les bouddhistes sont loin de s'être préoccupés essentiellement de notions religieuses, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas énormément, remués. Hein. Il y a davantage l'idée que le bouddhisme doit expliciter le réel. Vous savez, c'est une comparaison qu'on a souvent dans le bouddhisme, et que bon, quiconque a lu certains livres d'introduction au bouddhisme, le Bouddha se compare volontiers à un habile médecin ou un habile chirurgien. Et il dit une personne est atteinte, quelqu'un tire une flèche, mettons, à l'époque c'était le gendarme qu'il y avait, quelqu'un tire une flèche sur un autre, et il y a une personne qui est mortellement blessée par une flèche qui vient d'être donnée. Il dit, moi j'interviens en tant que chirurgien, ou que je médecin, enfin la personne qui essaye de retirer la flèche le mieux possible. Il dit, et les autres, eux ils sont autour, et puis ils disent, c'est incroyable, maintenant les gens se tirent des flèches les uns sur les autres, quelle peut être la personne qui a tiré la flèche sur celui qui sur la victime, etc., etc. Et tout ça, c'est peut-être intéressant, mais il y a une nécessité d'enlever une flèche maintenant. Et il y a une nécessité de se livrer à quelque chose. Et donc, vis-à-vis de le bouddhisme, il y a une chose qui prend toujours en compte, c'est la souffrance. Et donc, il y a toujours de la souffrance à traiter. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu des grands principes structurants, en quelque sorte. Mais on le verra la fois prochaine en étudiant ce qu'a été la vie du Bouddha. C'est-à-dire que vis-à-vis de tous ces problèmes philosophiques qu'on a posés aujourd'hui, il a dit qu'on ne peut pas les traiter d'une manière qui ne tienne pas compte de la souffrance humaine. Parce que la vie humaine souffre énormément. Il y a une capacité il y a une capacité de souffrir chez l'homme qui est immense. Et c'est pour ça que le samsara était jugé comme étant quelque chose de pénible. Si les gens le jugeaient comme pénible, c'est déjà parce que finalement, ils n'en savaient pas plus que nous sur ce qu'avait été leur existence précédente ou ce que serait leur existence future. S'ils le jugeaient comme pénible, c'est que déjà l'existence présente, il leur semblait qu'il y avait des éléments douloureux dedans.
Excusez-moi, peut-être
Mais
les déesses, elles sont toujours tourmentées. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Quand on est...
Oui.
Oui. Que pour manquer.
Oui.
Et est-ce que c'est un rapport avec le fait que de cette inquiétude dont on parlait tout à l'heure, qu'elle soit tourmentée comme ça?
Alors je ne sais pas, parce que si vous voulez, il y a comment dirais-je, toute une iconographie et une symbolique qui est quelque chose qui est extrêmement précis. Et donc tel dieu ou dans l'antique, hein, tel dieu ou telle déesse est toujours présenté avec certains attributs, pas avec d'autres, avec une expression, pas une autre expression, etc. Et en fait, il y a une forme de savoir dans cela, qui est extrêmement importante. Et dès le moment où on commence à étudier la statuaire de ces époques, toute la symbolique qui leur est liée, c'est un domaine qui est extrêmement riche. Et donc je ne peux pas du tout répondre juste sur une question, parce que ces dieux ou ces déesses que vous voyez tourmentés, ils sont également très tourmentants. Hein. Et donc je ne sais pas. Hein. Donc ça, il faudrait vraiment voir cas par cas, et c'est vraiment un sujet d'étude. Oui, madame.
Moi, je voudrais savoir pourquoi il y a beaucoup de déformes, et pourquoi ils ont, comment ils ont été chassés de
l'Inde. Oui. Alors, le bouddhisme n'a pas totalement disparu de l'Inde, mais comme vous le faites remarquer, il a grandement disparu, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, il a majoritairement disparu. Alors, je crois que effectivement, je vois personnellement deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, le bouddhisme ne reconnaissait pas ce système social des castes dont j'ai parlé précédemment. Alors, quelque chose qui ne reconnaît pas le système social dominant, il y a deux solutions. C'est-à-dire que ou il se substitue au système dominant, ou il ne peut pas continuer. Donc je pense que c'est l'une des raisons. La deuxième raison, je crois, pour laquelle le bouddhisme a disparu de l'Inde et d'une partie des pays auquel, dans lesquels il s'était très très bien implanté, c'est-à-dire tous les pays proches de Pakistan, Iran, Afghanistan, je crois qu'effectivement le bouddhisme a donc mal cohabité avec une certaine partie de l'islam expansionniste au Moyen-Âge. 12e siècle, 13e siècle, a priori les choses se sont passées moyennement. Dans certaines régions, je pense de l'Asie centrale, oui. Dans d'autres régions, par l'hindouisme, qui était donc la forme moderne du brahmanisme. Ce sont, à mon avis, les deux raisons essentielles. La première, c'est le système social, et la deuxième, ça a été effectivement la confrontation avec l'islam. Et en fait, c'est assez bizarre, parce que quand on regarde bien, l'Inde elle-même enfantait, on pourrait dire, deux des grandes religions de l'humanité, enfin au moins par le nombre de personnes qui ont adhéré, parce qu'à part ça, l'Inde a enfanté quand même beaucoup de religions, qui sont le brahmanisme et le bouddhisme. Et l'Inde, le brahmanisme, qui au début était quand même quelque chose d'assez expansif, qui avait touché l'Indonésie, qui avait touché un nombre de pays autour, finalement, aujourd'hui, quand on regarde bien longtemps après, n'existe plus qu'en Inde uniquement. Et au contraire, le bouddhisme, qui dans un premier temps n'était pas spécialement expansif, qui finalement le Bouddha tournait dans le bassin du Gange à peu près, et bien maintenant le bouddhisme existe essentiellement hors de l'Inde, en Asie, en Extrême-Orient. Comment ?
Il est en pleine expansion, le bouddhisme.
Ça dépend où ? En Chine, non, je ne pense pas.
En Occident.
Oui, en Occident. Ça commence un peu, hein. Moi, c'est l'impression que j'ai. Oui. Je pense que les concepts arrivent, parce que c'est quand même, pendant longtemps, une pensée qui a été peu ou pas connue en Occident. Et c'est quand même une des grandes pensées de l'humanité. Quoi qu'on en pense, qu'on trouve que c'est très bien ou que c'est très mal, mais on est quand même obligé de reconnaître que c'est l'une des pensées qui a produit énormément de génie de l'humanité, à tout niveau, que ce soit des penseurs, des artistes, etc. Donc maintenant, bon, ça me semble assez normal, mais en même temps, je constate quand même que d'autres grandes religions, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça religion ou philosophie, ou pensez ce que vous voudrez de la vie, tels que le confucianisme ou le taoïsme, à mon avis, sont aussi peu connus et aussi mal connus que le bouddhisme.
Il y a quelque chose que je voudrais savoir. Oui. Est-ce que le Bouddha est arrivé au bon moment, c'est-à-dire à un moment où le peuple était déjà en révolte contre le système des castes, ou pas ?
Ce n'est pas une révolte comme une révolte comme la Révolution française. Hein. Je ne crois pas que les gens étaient en... À mon avis, il y avait donc des personnes qui vivaient mal cela, mais je pense qu'il était vraiment une minorité. Je crois que ce à quoi le Bouddha et d'autres de son époque ont répondu, c'est davantage cette inquiétude métaphysique vis-à-vis du système global du samsara dont je parlais tout à l'heure, que vis-à-vis d'un sentiment d'injustice qui serait lié au système social. Donc le Bouddha lui-même se pose comme une sorte de penseur et pas comme un révolutionnaire. Oui.
Si le samsara semble extrêmement pénible, et on est comme exemple de l'homme qui se réveille tous les matins amnésique, est-ce qu'il ne serait pas plus dur et pénible de se souvenir de toutes les vies passées?
Oui, oui.
De souvenir de tous les êtres perdus, de tout, dans toutes les vies
passées. Oui, toutes les souffrances que...
Et de toutes les souffrances.
Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on est sur deux registres de l'expérience humaine qui sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que j'ai quand même besoin d'avoir une cohérence avec moi-même, avec ma propre vie. Quelles que soient les expériences, même si c'est des expériences très dures, que j'ai eues. Je crois que chacun tient sa propre vie. Chacun tient sa propre vie, c'est-à-dire à son propre passé, etc. Donc je pense même des personnes qui ont connu des expériences traumatisantes. Alors, je ne dis pas qu'ils veulent revivre tous les jours les expériences traumatisantes, mais c'est leur passé à eux. Pour eux, c'est quand même important. Donc, on pensait que dans le fait d'être privé de son passé, il y a quelque chose qui est pénible. Ce qui ne signifie pas pour autant que ce passé soit uniquement joyeux. Mais on pense que c'est une chose extrêmement importante pour l'homme que la constitution de son identité. Et effectivement, on pourrait se dire l'amnésique qui se réveille tous les matins, si finalement le jour d'avant il a eu une journée détestable, autant qu'il s'en rappelle pas. Mais finalement, c'est peut-être plus important qu'il sache qui il est et ce qu'il est, qu'il tiendra davantage à ça, quitte à se rappeler des expériences douloureuses, que de tout oublier sans cesse. Enfin, je suppose. Hein.
Pensée philosophique, je crois que le mot a été prononcé. Religion, le mot a été prononcé aussi. Comment passe-t-on de la pensée philosophique à la religion? Comment passe-t-on du profane au sacré?
Alors, j'avoue que ça, c'est des distinguos qui moi, m'ont toujours semblé délicats, parce que, effectivement, quand on parle des grands courants de pensée de la vie, que ce soit justement le bouddhisme ou le taoïsme ou le brahmanisme qu'on a évoqué au début, on appelle ça ici des religions. Alors, là, il y a peut-être un problème de vocabulaire. Moi, je veux bien les appeler religieux, mais à des fins de commodité et pour communiquer avec autrui. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une religion sans Dieu. Des religions comme le bouddhisme, etc., ou le taoïsme, même s'il y a différents dieux qui existent plus ou moins, mais on ne leur accorde pas un statut très important. Donc, on a affaire à ce que seraient des religions sans Dieu. Donc, le phénomène n'est pas... est difficile pour nous à cerner. Donc, on parle de religion à des fins de commodité, mais je ne pense pas que ce soit des religions sur le modèle des religions établies qu'il y a ici. Et alors, le passage du profane au sacré... On voit bien que dans ce genre de système du dharma, il n'y a pas de notion de profane. Alors, il n'y a peut-être pas de notion de sacré non plus, mais je veux dire, il n'y a rien qui soit en dehors de... les choses sont ou en accord ou en opposition avec le dharma. Donc on pourrait dire que ce qui est profane, mais dans ce cas, c'est pas profane comme nous on l'entend. Ce qui serait profane, c'est ce qui va contre le dharma, ce qui est adharma, ce qui est mauvais, ce qui est vicieux, etc. Je ne sais pas si c'est une réponse. Oui, madame. Oui.
Les manuscrits qui ont été retrouvés.
Oui. C'est-à-dire les textes de base du bouddhisme. Il y a différentes langues qui sont utilisées. On a comme langue importante, il y a le sanskrit, essentiellement, qui était déjà une langue morte à l'époque, et une langue sacrée par le fait, et le pali, qui est une langue qui ressemble beaucoup, mais qui était une langue quand même parlée. Et donc, la plupart des textes bouddhiques que nous avons actuellement le canon bouddhique est écrit essentiellement en sanskrit, mais également un canon pali qui existe. Et donc le sanskrit, alors c'est justement, c'est là où votre question est très importante, c'est que le sanskrit est une langue indo-européenne et de celles que nous connaissons, la plus ancienne. Et donc, vous avez beaucoup de mots, par exemple, en français, dont l'origine remonte au sanskrit. Alors, je ne dis pas que ce soit le sanskrit qui soit à l'origine des langues comme le latin, le grec, etc. On ne connaît pas l'origine de ces langues. Mais on sait que ces langues font partie d'un même groupe, et que si on veut avoir une idée de ce que c'était ces langues aux époques les plus reculées, alors nous avons comme témoin qui existe encore aujourd'hui une langue comme le sanskrit. Mais il y a beaucoup de mots français, hein, même quand on les dit comme maintenant, je sais pas, comme les chiffres, par exemple, 3, en sanskrit c'est tri, et quand vous voyez toutes les langues européennes, vous avez quelque chose qui commence plus ou moins par TR pour désigner 3. Beaucoup de choses, hein, Mara qui veut dire grand, vous le retrouvez en français dans tous les mots comme majeur, ou un certain nombre de mots qui commencent également par ma, etc. Il y a beaucoup de mots, le mot vertu par exemple en français vient du sanskrit virti, c'est très proche. Moi j'ai vu, il y a quand même des... en plus ces langues ont une même manière d'ordonner le sujet, le verbe, etc. Moi j'ai vu par exemple des exemples de différentes langues indo-européennes, quelle que soit l'époque à laquelle sont nées, même le, je sais pas, du bas-prussien, ou ce que vous voudrez, du hollandais, du français, du latin, du grec, du sanskrit, et certaines phrases simples, vraiment, la France, dans toutes ces langues, ressemble énormément, hein. Oui.
Sur la fiche, il y a le bouddhisme connaître et comprendre.
Oui, oui, oui.
Est-ce que ça suffit de connaître et comprendre ou est-ce que ça nécessite aussi une pratique?
Oui. Alors, c'est également une bonne question. On va voir que on ne peut pas, d'une certaine manière, à mon avis, connaître, comprendre, etc. Uniquement d'un point de vue purement mental. Toute chose nécessite des exercices. Et dans le bouddhisme, il y a un grand nombre, quand on étudiera par exemple les 12 liens causaux, je vous parlerai d'un certain nombre d'exercices mentaux qui existent dans le bouddhisme, ou même d'exercices parfois qu'on fait avec différentes choses. Et donc, au même titre, on ne peut pas pratiquer un instrument juste de musique, par exemple, juste mentalement. Il faut faire des exercices, il faut essayer de jouer des choses d'une certaine manière. Il y a un travail, toute chose. On a bien vu, il y a des actes mentaux, des actes vocaux et des actes corporels. Et donc, on passe nous toujours par ces trois sortes d'actes. Et une chose ne peut pas être uniquement du domaine de l'acte mental.
Quoi, par exemple, comme exercice mental?
Là, je vous en parlerai. Quand, bon, non, parce que c'est genre de choses, on ne peut pas, comment dirais-je, en deux mots. Alors, bravo. Voilà, alors, Monsieur Cauchois donc, nous a préparé le script, hein, pour ceux qui voudront du cours, en plus sous une jolie forme, on dirait presque un petit fascicule, donc on pourra le prendre. Mais écoutez, je vous propose, vu que nous sommes arrivés à l'heure, hein, pour cette première conférence, je vous propose, pour ceux qui en ont envie, qu'on se revoie dans exactement 2 semaines, et le 26, et puis alors là, on verra quelque chose qui sera peut-être très parlant, et qui est ce qu'a été la vie du Bouddha, du moins ce qu'on en connaît aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.